C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous sommes à Nantes, dans l'ouest de la France, à la Cité des Congrès, où s'est déroulé pendant 3 jours le sommet Climate Change. Et les jeunes sont très représentés ici. Il y en a plusieurs autour de moi. On commence avec vous, Yann Le Sest. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Climate. Alors expliquez-nous ce que c'est Climate.
Alors Climate, c'est un réseau constitué de 400 jeunes répartis dans une trentaine de pays et qui s'est donné pour mission principale de fournir à des jeunes, à nos membres, mais également à d'autres personnes, des outils pour devenir des acteurs du changement en matière de lutte contre les dérèglements climatiques.
Et vous avez plusieurs outils, hein, puisque vous parlez d'outils, ça se décline de différentes manières.
Oui, nous menons plusieurs types de projets. Des projets qui visent à sensibiliser les jeunes à comprendre les grands enjeux du climat. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une COP? On a entendu beaucoup parler l'année dernière de la COP21. On en aura un peu moins parlé cette année de la COP22 et malheureusement encore moins de la COP23. Au-delà de ces projets de sensibilisation, nous menons également des projets de recherche, actuellement des projets sur la migration climatique, sur les méthodes de communication innovantes sur le thème du changement climatique, en lien avec Place to Be, dont vous allez avoir bientôt une présentation. Des projets également autour de la finance climatique et autour des initiatives innovantes en matière d'agriculture durable.
Et vous intervenez aussi au sein des conventions des Nations Unies sur le climat, puisque les jeunes ont droit à la parole, on peut dire ça comme ça ?
Tout à fait. Alors, sans entrer trop dans le détail, la société civile est répartie au sein de 9 collectifs, au sein des conférences de l'ONU sur le climat, et l'un de ces collectifs concerne la jeunesse. Et donc, l'AMS, en tant qu'organisation jeune, peut participer aux sessions, peut donner son avis et peut contribuer, ce que nous faisons quand nous en avons l'opportunité.
Et vous avez l'impression d'être écouté ?
Pas toujours. Il y a eu de très nets progrès qui ont été faits, pas seulement envers le groupe de la jeunesse, mais envers l'ensemble des représentants de la société civile ces dernières années, jusqu'à 2014-2015. Les négociations onusiennes sur le climat étaient essentiellement faites entre États. Avec la COP21, il y a eu quelque chose de nouveau. Les États se sont rendus compte que les diplomates peuvent négocier tous les accords qu'ils entendent, se fixer des objectifs très ambitieux. Les accords ne seront mis en place sur le terrain que par les acteurs de la société civile. Et il y a eu un grand changement avec la COP21, puisque maintenant ces acteurs sont reconnus comme étant des acteurs de premier plan pour la mise en œuvre de mesures de lutte contre le dérèglement climatique. Alors oui, les organisations jeunes sont de plus en plus écoutées, mais il y a encore des progrès à faire.
Oui, alors il y a des progrès à faire du point de vue des institutionnels, comme vous le disiez, mais aussi du point de vue des jeunes pour essayer d'emmener de plus en plus de monde et puis faire en sorte que ces sujets soient accessibles à tous. Alors il y a une initiative qui est très intéressante aussi, qui est faite par Climate, ça s'appelle COP in My City, c'est une espèce d'initiation justement aux négociations climat. Comment ça se passe ?
Tout à fait. Alors c'est un projet en 3 phases. Tout d'abord, nous formons les participants, généralement des jeunes entre 16 et 25 ans, disons, à comprendre quels sont les grands enjeux du changement climatique et à quoi servent les COP, les conférences de l'ONU sur le climat. Dans une deuxième partie, nous proposons aux participants de faire une simulation des conférences. Alors chacun se met dans la peau d'un État ou d'un groupe d'États. On donne aux participants une fiche pédagogique qui explique quelle est la position des États dans les vraies négociations. Et ensuite, chaque participant doit essayer de négocier en faveur des opinions défendues par le pays qu'il représente. Et donc la troisième phase du projet COP in My City, c'est une phase de mobilisation.
Alors ça se traduit comment par exemple ? Alors, mobilisation pour faire quoi ?
En fait le modèle du projet c'est Climate fournit des outils créés par notre partenaire le Climate Interactive. On leur fournit des outils, on les coach par Skype ou par email pour apprendre à faire des simulations. Et après ce sont des jeunes qui vont organiser eux-mêmes les simulations dans leur ville. Et après c'est à ces jeunes, une fois qu'une équipe est constituée, de décider quel type de mobilisation mener. Donc l'année dernière, on a eu des mobilisations très diverses, des étudiants qui ont nettoyé des plages, des étudiants qui ont planté une petite parcelle de forêt, d'autres ont organisé des événements de sensibilisation à destination des jeunes dans leur ville. Cette phase de mobilisation peut prendre des aspects très divers.
Voilà, et l'année dernière, il y a eu beaucoup de COP in My City organisées dans plein de pays. Vous me disiez en préparant cette émission, cette année, il y en a déjà eu 60, comme quoi, oui. Après la COP21, la dynamique est toujours là.
Oui, c'était une inquiétude qu'on avait du côté de Climate. On pensait qu'avec la COP21 et un certain manque d'attention médiatique cette année pour les enjeux des COP, la mobilisation retomberait, mais non. COP in My City reste un projet très dynamique, vous l'avez dit, 60 de simulations prévues cette année, mais l'activité de Climate ne tourne pas uniquement autour des COP. Nous avons également d'autres projets de simulation, par exemple le projet Heatwave in My City consiste à penser comment est-ce que des parties prenantes d'une ville peuvent réagir à un épisode caniculaire dans un milieu urbain. C'est un projet que nous avons lancé pour faire un peu écho à Copima City. Copima City, c'est le côté un peu institutionnel. C'est comment est-ce que des diplomates dans des hautes sphères, dans un endroit un peu soumis un peu à la technocratie, négocient pour l'avenir du monde. Et It's Copima City et d'autres projets de climate est plus tourné vers la mise en application concrète de ce qui est négocié pendant les COP.
Sakina Penpoint, bonjour.
Bonjour.
Vous avez coordonné la COI 11. Alors la COI 11, c'était juste avant la COP 21. C'était un énorme événement fin novembre à Paris, fin novembre dernier. Alors rappelez-nous le niveau de mobilisation des jeunes à ce moment-là.
Donc COI, ça signifie Conference of Youth, donc conférence des jeunes. Et du coup, ces jeunes étaient accueillis au sein de la COP pour discuter des enjeux climatiques, apprendre, débattre et juste s'informer au quotidien sur les solutions du quotidien. Et donc, du coup, parmi ces jeunes, la majorité ont participé à des conférences, des ateliers, des débats. Et il y a eu aux alentours de 500 conférences et débats et différents formats qui ont été organisés au sein de cette conférence des jeunes.
Et donc, il y avait 5000 jeunes à Paris, mais il y avait des COI dans d'autres pays en parallèle.
Oui, bien sûr, il y a eu des COI en parallèle parce que, évidemment, la COP 21 s'est passée à Paris et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se bouger dans les autres pays. Donc, il y a des COI qui ont été organisés dans 8 autres pays du monde.
Et donc, l'idée, c'est que ça continue. Il y en aura une aussi à Marrakech avant la COP 22.
Il y en avait une à Marrakech et justement, c'est parce que la prochaine COP va se dérouler au Maroc. Et du coup, la prochaine COI se déroule également au Maroc, organisée par des associations locales qui sont au Maroc. Et la COI 12 va aussi avoir une sacrée ampleur et accueillir un certain nombre de jeunes.
Parce que c'est ça le principe, c'est-à-dire que ce sont les associations locales du pays où a lieu la conférence des Nations Unies sur le climat qui accueillent les autres jeunes du monde entier qui, du coup, organisent cette conférence. Donc, ça va se produire aussi à Marrakech avec sans doute beaucoup d'Africains.
Exactement. Et les Marocains ont également décidé qu'il y ait des conférences des jeunes délocalisées, comme on l'avait fait, et qui seront organisées un peu partout dans le monde également.
Voilà, donc là aussi, une grande dynamique en marche. Bonjour Constance Bénard.
Bonjour.
Alors vous démarrez un projet, c'est cette semaine, hein, ça démarre tout juste, ça s'appelle La Luciole. Donc c'est parti pour vous et votre collègue qui s'appelle
Marine Leduc.
Voilà, il fallait en choisir une sur les deux, mais il faut la citer quand même. Et donc vous partez toutes les deux pendant 2 mois, direction Marrakech, avec un objectif, c'est aller dans cette ville à la rencontre d'initiatives citoyennes qui prouvent que quand on parle d'environnement, pas seulement de climat, mais de protection de l'environnement au sens large, ça ne s'adresse pas qu'à un public restreint.
Voilà, c'est ça. Donc on fait un voyage de Nantes à Marrakech. On passe par Paris, Lyon, Marseille, Barcelone, Tanger. On arrive à Marrakech donc, au moment de la COP 22.
Donc le 7 novembre.
Le 7 novembre. Et dans chaque ville, on va mettre en valeur, on va faire des reportages sur 2 ou 3 initiatives citoyennes qui s'adressent à des populations qui sont peu ou pas sensibilisées a priori, et le a priori est important, aux questions environnementales et aux questions de changement climatique. On va aussi rencontrer des artistes donc, qui parlent à leur façon de ces changements climatiques. On va mixer tout ce contenu et on va en faire une émission, une par ville, donc de 15 à 20 minutes, qui va être écoutable sur notre site et sur les radios associatives des villes en question. Donc on a commencé à Nantes là ce week-end, on était dans le quartier de Malakoff, donc qui selon ses habitants a mauvaise réputation, et on a rencontré un collectif de femmes qui s'appelle les IDL, et qui ont cherché à comment se réapproprier ce quartier et comment donner une autre image, et du coup elle passe par la sensibilisation au recyclage notamment. Elles ont installé un grand composteur, des jardins partagés, et donc voilà, on a rencontré ces femmes qui étaient fantastiques. Et on a rencontré aussi une artiste qui s'appelle Belle de Bitume, qui sensibilise à travers des contes, les petits, les grands, et qui s'est fait connaître en écrivant, en faisant écrire le nom des plantes sur le sol. Donc les plantes qui arrivent à émerger, par exemple, entre deux...
Les plantes de macadam.
Voilà.
Et donc on pourra écouter vos reportages sur votre site, j'imagine.
Sur notre site qui va être lancé une fois qu'on aura fini le montage de Nantes. Bon, on a déjà un Facebook, La Luciole, et ce sera aussi sur les radios associatives qui voudront bien nous diffuser.
Vous, vous étiez bénévole à Place to Be. Donc Place to Be, c'était, Samy va nous expliquer, mais c'était quand même un lieu citoyen qui était à Paris, pas à l'endroit où avait lieu la conférence officielle, c'était-à-dire au Bourget, mais c'était dans Paris pour sensibiliser un maximum de gens aux enjeux climatiques. Et vous, vous étiez déjà investi comme bénévole.
Voilà. On était bénévoles et bon, il s'est passé plein de choses. Il y a eu énormément d'informations qui nous ont été divulguées. On s'est dit que c'était génial. Et on s'est dit aussi, est-ce qu'on ne parle pas seulement aux gens qui sont déjà sensibilisés et acquis en fait un peu à cette cause? Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller déjà sortir de Paris, aller dans d'autres villes, etc. et faire parler d'autres gens qu'on n'entend pas forcément.
C'est-à-dire donner la parole à des gens qu'on n'entend pas habituellement.
Voilà. Comme ces petites associations de quartier et qui sont hyper actives et vraiment qui, là ce week-end, elles ont rassemblé tout le quartier et pour nous, elles sont aussi acteurs que les grands politiques. Bon, les deux sont nécessaires, mais voilà.
Il faut leur donner la parole.
Voilà.
Alors Place to Be, justement, Samy Cheikh Moussa, vous êtes responsable du développement de Place to Be. Alors rappelez-nous de quoi il s'agit. Je dis rappelez-nous parce qu'on suit Place to Be aussi dans cette émission depuis le départ. Donc certains auditeurs en ont déjà entendu parler.
Oui, tout à fait. C'est vrai que Place to Be est née en fait avant la COP21. Elle a été fondée par la journaliste Anne-Sophie Novel, qui avait donc eu cette idée d'un lieu à Paris, hors du centre des négociations, qui serait un véritable QG de la société civile, où effectivement on ne parlerait pas uniquement entre négociateurs et avec politiques et acteurs étatiques, mais vraiment avec l'ensemble des gens qui composent finalement cette société civile. Donc ça va aussi bien de nous simples citoyens, mais des associations en général, les journalistes comme vous, et ensuite des gens qui ont aussi un rôle d'informateur, d'éducateur, de narrateur, comme on aime à les appeler, parce qu'ils ont un blog, parce qu'ils font de la communication, parce qu'ils aiment raconter des histoires, etc. Et c'était un peu tout ça, Place to Be, pendant la COP21.
Mais alors la COP21, c'est fini et Place to Be, ça continue. Alors il se passe quoi maintenant?
Effectivement, en fait, à l'issue de la COP21, où ce lieu a été un franc succès, où on a accueilli plusieurs milliers de personnes, et en plus Place to Be était sorti des murs. Place to Be avait aussi organisé des événements à Nantes, à Toulouse et à Bordeaux. On s'est rendu compte que cette dynamique-là, elle avait été largement au-delà du simple événement de la COP21. Et qu'il y avait donc la place pour continuer à raconter ce récit climatique, ce nouveau récit qui avait été le thème de Place to Be. Et donc aujourd'hui, Place to Be est une association qui est basée dans plusieurs villes, pas uniquement en France, mais par exemple également au Canada, à Montréal, et qui se consacre à l'écriture de ce nouveau récit et au travail de tous ceux qui justement se disent narrateurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient associations, qu'ils soient artistes, et qui veulent parler à la fois du changement climatique et plus largement en fait de la transition de nos sociétés vers des modèles, on va dire, plus soutenables, qui est le mot classique dans ces cas-là.
Donc ça se décline sous forme de conférences, par exemple. Vous avez lancé un concept qui s'appelle les alchimies.
On avait dans notre ADN depuis la COP21 l'événementiel, finalement, le fait d'avoir comme un événement, parce que c'est un bon moyen d'aller toucher un grand public qui va venir attirer parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a des conférences intéressantes. Donc on s'est dit que, donc en 2016, on a effectivement lancé une série d'événements qui s'appelle les Alchimies, dont le premier chapitre s'est tenu à Paris le 8 septembre et dont le deuxième chapitre se tient à Bordeaux le 3 octobre, où dans chacun de ces événements, on aborde un thème différent. Le premier, ça a été sur la question de l'écologie politique, et tandis que le deuxième est par exemple sur la question des pesticides. Aujourd'hui, dans nos sociétés qui commencent à se poser beaucoup de questions sur les pesticides, en France, ça a fait pas mal de bruit après un documentaire notamment Cash Investigation. Comment est-ce que les gens, les consommateurs, mais également les producteurs, les agriculteurs eux-mêmes, commencent à se repositionner vis-à-vis de cette question-là? Et donc, c'est l'événement, ça fait que tout le monde a le droit de prendre la parole. On est sur des choses ouvertes, c'est pas uniquement descendant. On est sur de l'échange et essayer de construire ensemble justement ce récit d'une autre société.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Thank you.
Du vent sur RFI installé à la Cité des Congrès de Nantes à l'occasion du sommet Climate Chance qui a réuni des ONG, des entreprises et des élus, tous engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Et là, nous sommes en compagnie de plusieurs jeunes, tous investis dans des mouvements différents pour justement lutter contre les changements climatiques. Bonjour Delphine Blumereau.
Bonjour.
Alors vous êtes l'ancienne présidente de Climates, en fait, Yann Le Sestre, qu'on entendait au début de l'émission, vous a succédé et vous rentrez de 6 mois en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Tout à fait. Ça a été un changement de trajectoire puisque j'étais engagée depuis 3-4 ans dans Climates en tant que jeune pour lutter contre le changement climatique. On a organisé cette COI où il y avait 5000 jeunes réunis pour interpeller les hommes politiques, mais surtout avec le message de « on est prêt pour agir maintenant puisqu'on n'attend plus que les hommes politiques passent à l'action ». Soit on n'y croit plus, soit on juge que l'action doit être immédiate. Mais on a considéré avec 3 amis que, en fait, le pouvoir, aujourd'hui en tout cas, est dans les mains des hommes politiques et qu'on ne pouvait pas agir uniquement en tant que jeune, qu'il fallait qu'on travaille avec les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs financiers. Et du coup, on a questionné un peu notre démocratie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire une transition énergétique? Pourquoi est-ce que les citoyens et les jeunes qui connaissent ce problème de fond ne parviennent pas à faire cette transition écologique? Et donc, on est parti en Amérique du Sud pour chercher des solutions qui sont des solutions concrètes, qui marchent et qui permettent de répartir un peu mieux le pouvoir, entre guillemets, et qui permettent aux citoyens de co-décider avec les hommes politiques, de co-décider avec les hommes économiques, pour faire des choix de société qui impactent leur vie.
Alors, vous êtes rentré il y a peu de jours, donc évidemment, il y a 6 mois, il faut faire le bilan, il faut décanter, il faut laisser poser les choses. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de nous faire découvrir comme exemple porteur, justement, de cette dynamique-là?
On est parti en Argentine, par exemple, pour aller découvrir des monnaies locales, au Mexique aussi, qui sont des monnaies alternatives aux monnaies nationales, mais qui permettent de réallouer et de relocaliser les investissements. Donc ça veut dire que l'argent qui est investi, par exemple, dans une boulangerie qu'on paye au marché du coin, ne part pas sur les marchés financiers, mais part directement dans la poche du boulanger et en fait va être de manière très pragmatique réinvesti dans l'économie locale. Donc en fait, ça permet d'éviter aussi les achats qui viennent de l'autre bout du monde, de réduire l'empreinte écologique. On a aussi découvert, par exemple, une ville au sud de Lima qui a été nominée au prix Nobel de la paix par l'ONU dans les années 80 pour son système de démocratie directe avec un budget participatif. Et ça nous a vraiment impressionnés parce que plus de 90% de la population participe, qui est le plus haut taux du Pérou. Et c'est une ville qui a aujourd'hui l'eau potable, alors que la capitale de Lima ne l'a pas, qui a un plan de développement durable d'ici 2030 qui est extrêmement ambitieux, alors que c'est une ville très pauvre. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans des villes riches, aujourd'hui même en Europe. Et du coup, la participation des citoyens qui vraiment disent leurs besoins, leurs envies de société, dans l'intérêt général, en fait, permet vraiment des transformations des villes qui sont écologiques, en fait, ou qui ont un impact écologique.
Combien d'habitants ?
500 000.
Ah oui ?
Et en fait, ça nous a donné beaucoup d'espoir parce qu'on est revenu avec des initiatives qui sont concrètes, qui marchent depuis des dizaines d'années, qu'on n'a pas forcément en Europe, donc qui sont très inspirantes. Et surtout aussi, on a du mal parfois à avoir cette relation sud-nord dans les relations internationales, mais d'apprendre de l'Amérique du Sud et de tous les choix qu'ils ont faits pour essayer peut-être de les ramener en France, de mobiliser des jeunes, d'essayer de les créer et peut-être d'avoir d'autres manières d'agir qui ne sont pas forcément celui du vote, mais qui sont des initiatives concrètes, politiques.
Voilà, et ça résonne en France puisqu'on est à quelques mois de l'élection présidentielle où on sent bien justement que les jeunes ne vont pas trop se mobiliser. Alors Yann Le Sestre, j'aimerais même globalement faire un petit tour de table par rapport à ce qu'a dit Delphine et ce que vous avez tous dit un petit peu, c'est-à-dire en fait nous on se mobilise dans vos différentes aspects, on a entendu vos différentes associations, vos différentes implications, parce que quoi, en fait, vous êtes persuadé que c'est le sujet du 21e siècle, ces changements climatiques. Quel est votre moteur, Yann ?
Je pense que chacun a un moteur différent, un élément déclencheur différent. Dans mon cas, ce qui m'a donné envie de m'engager en associatif, en tout premier lieu, c'était l'envie de rejoindre une communauté. Et au sein de Climate, on est assez bien servi puisque nous sommes un réseau international et chaque jour, nous pouvons avoir des liens avec des personnes qui ont différentes cultures, qui vivent sur différents continents. Mais après, mon engagement associatif a renforcé ma conviction qu'effectivement, le changement climatique était l'enjeu principal de notre siècle.
Sakina Pain-Point.
Personnellement, je ne vais pas présumer du futur sur ce que l'État fait et ce que l'État va faire surtout. Mais en tout cas, sur ce qui est fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'effectivement, l'engagement des jeunes et l'engagement de tout un chacun, pas seulement les jeunes, permet de pousser le gouvernement vers une transition écologique. Et pour moi, c'est essentiel, la préservation de l'environnement. C'est non seulement la préservation de notre espèce et d'autres espèces d'ailleurs, mais c'est aussi essentiel pour avoir une société plus équitable et plus bienveillante les uns vers les autres.
Alors vous êtes hyper active, mais depuis 2 semaines, vous êtes en recherche d'emploi, mais vous voulez absolument travailler dans ce domaine-là.
Exactement. Je pense que une fois qu'on a commencé à travailler par rapport au changement climatique, on se rend compte qu'il y a tellement à faire et tellement de projets et avec des gens tellement motivés également que vraiment c'est un domaine qui est infini et très intéressant. Et
c'est ce qui a du sens pour vous, quoi.
C'est vraiment. Ouais.
Constance Bénard, vous êtes journaliste de votre État et là vous avez donc décidé avec ce projet La Luciole de vous intéresser au changement climatique. Vous nous avez expliqué que vous avez été initiée par Place to Be, mais qu'est-ce qui vous porte?
Déjà, ce qui nous porte, enfin, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je trouve que, enfin, nous, ce qu'on voulait aussi, c'était essayer d'inventer encore un autre moyen de parler à certaines personnes. Et la façon dont on veut construire notre création sonore, alors même si ça fait un peu pompeux.
Votre récit, en tout cas.
Notre récit, c'est d'essayer de parler au maximum de gens. Et nous, on voudrait essayer de s'effacer, de mettre le moins de commentaires possible et de laisser le plus possible parler justement ces acteurs au niveau micro, local et montrer comment eux s'impliquent sur leur territoire. Et le côté aussi, parler des populations qui a priori sont pas sensibilisées et montrer que justement elles sont hyper sensibilisées et c'est des questions qui les touchent aussi et qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit exclue de ces négociations et de ces questions, c'est ça qui nous portait aussi.
Samy Cheikh Moussa, vous, Place to Be, on a compris, vous êtes très impliqué. En plus, vous êtes responsable du développement, donc c'est une sacrée casquette. Mais qu'est-ce qui vous pousse intérieurement à être sur cette thématique?
C'est vrai que ça a été un processus qui est venu peut-être un peu plus tardivement que pour un certain nombre de mes collègues qui sont autour de la table, puisque moi j'avais commencé à travailler en tant que consultant après avoir fini mes études et j'ai passé quelques années à travailler pour les grandes entreprises françaises. Et ça a été une prise de conscience peut-être plus tardive du fait que, une part effectivement, comme ça a été dit par Yann, le changement climatique est le sujet de ce siècle et donc le sujet de ma génération, en tout cas celle à laquelle j'appartiens, ça j'en suis persuadé, et que ça serait difficile à vivre pour moi d'être passé à côté de ce sujet-là. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est globalement, on n'a pas envie de dire à ses petits-enfants dans quelques décennies de cela qu'on est passé à côté et qu'on n'a rien fait pour quel que soit le résultat. En fait, ça, c'est même pas une question de résultat, c'est simplement est-ce qu'on a essayé ou est-ce qu'on a voulu apporter un peu sa pierre à l'édifice. Et donc c'est vrai que ça m'a fait un peu revoir moi mon parcours entièrement et m'impliquer aujourd'hui effectivement dans une association et dans Place to Be plus particulièrement. Et ensuite une fois qu'on y est, je suis d'accord, on a envie d'y rester parce que il y a beaucoup de choses à faire et parce que on invente en fait. C'est pas pour jeter la pierre effectivement aux entreprises et notamment aux grandes entreprises pour lesquelles moi j'ai travaillé, mais je suis à peu près persuadé qu'on invente au quotidien beaucoup plus dans les associations, d'une part parce qu'on n'a pas leurs moyens et que donc il y a tout à faire avec très peu. Et donc, c'est même égoïstement très agréable parce qu'on a la capacité simplement à décider de ce qu'on va faire et de comment on va le faire. Et on teste, on essaye et quand on chute, on se relève et c'est un vrai plaisir.
Et justement, quand on parle de transition, puisqu'en ce moment, on est dans une période de transition, inventer, créer, innover, c'est essentiel.
Oui, je pense que la manière dont le grand public le voit d'ailleurs souvent, c'est que le climat, l'environnement, c'est une question qui va être très matérielle. C'est des éoliennes, c'est des panneaux solaires, c'est des choses qu'on peut toucher. En fait, derrière ça, c'est aussi un imaginaire et c'est aussi un vrai récit. Donc c'est sur ça qu'on travaille à Place to Be. Et on est persuadé que c'est par l'invention et c'est par la créativité en général qu'on va faire une transition aussi des mentalités et que les panneaux solaires, les éoliennes, et les recyclages, ça vient aussi beaucoup quand les mentalités, elles, ont fait leur transition. Et après, tout le reste va suivre la société. Elles suivent souvent la mentalité, c'est pas les mentalités qui suivent la société. En tout cas, c'est notre avis.
Delphine Blumereau, vous, donc on a bien compris, vous êtes engagée depuis quelques années et vous n'avez pas du tout non plus envie, même s'il va bien falloir aussi gagner votre vie, mais de changer de domaine de compétences.
Non. Pour moi, c'est l'enjeu le plus grave qu'on ait au XXIe siècle, de très loin. Et je ne pense pas être plus utile autre part que dans le changement climatique, au vu de ce constat, en fait.
Et ça peut se traduire comment ?
Par plein de choses différentes. Je pense dans les startups, les entreprises ont vraiment un pouvoir d'impact et de transformation qui est gigantesque. Et je pense que, comme la stratégie de la COP21, d'aller chercher les acteurs économiques et pas seulement faire de la diplomatie entre États, Ça colle à la réalité du monde et j'aimerais bien, oui, peut-être faire bouger un peu le monde des entreprises pour qu'ils soient plus responsables, mais également les startups pour l'innovation. Je pense que c'est aussi l'idée de notre projet, c'est d'expérimenter. Et pourquoi pas aussi le monde politique. Je pense que partout où on est, on a un pouvoir d'impact qui peut faire changer les choses.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron d'avoir installé ce studio au sommet Climate Chance à Nantes. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure. Musique du